Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 11 septembre 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la série policière que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
June Evans fait la connaissance de Roy Miller. Ils sont beaux les deux, la blonde, il ressemble fortement à Tom Cruise, et en tombe sous le charme.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, bonjour l'Ultimatum.
Bonjour Dastrich.
Bonjour du sport.
Attends, j'ai pas calé mon micro là.
Ouais, bah alors dans ce cas-là, hop, je vais te mettre un petit peu à droite, là, hop, un petit peu de spatialisation, nom d'idiot. Bonjour à tous, c'est le supplément week-end du samedi 11 septembre 2010. On évitera n'importe quelle relation en rapport à quoi que ce soit, à des événements malheureux, religieux et autres fous de Dieu, n'importe quel Dieu qu'il soit, ça on s'en fiche. Tout simplement parce que j'estime que il faut que l'humanité tourne une page et que ma parole est d'or quand je suis en régie. L'humanité, c'est moi qui décide. L'humanité qui reçoit cette semaine d'ailleurs l'équipe de Fluide Glacial. Ils ont complètement refait un numéro dessiné
par. C'est normal,
par
c'est la fête de l'humain ce week-end, mon gars.
Eh oui. Et oui, la fiesta du Bob Ricard avec les podiums sponsorisés TF1, ce qui me fait toujours rire.
The Prodigy.
Putain, merde.
Ah, c'est las bolas.
La semaine prochaine, c'est la 250e. Et en attendant, zou, sans plus tarder, les sorties BD. Parce que vous m'avez dit, non, il n'y a pas besoin de fond pour un... pas d'intro. Vous mettez dans la haine, les gars. On va commencer avec Thomas. Il a vu le conducteur. Il a fait oh,
il est où? Fais péter.
Il est au format poche. Il est en noir et blanc. Il fait les 192 pages. Au jugé. Il est sorti chez Kana et c'est le troisième tome donc de Bakuman.
Ouais.
De Tsugumi Oba et Takeshi Obata qui sont les auteurs de.
Death Note.
Voilà, et dont d'ailleurs j'ai oublié d'amener, mais il y a une novélisation à part de Death Note qui sort dans la même livrée, donc ça on en reparlera à mon avis peut-être la semaine prochaine, peut-être puisqu'on ne sait pas, puisque la 250e sera vraiment n'importe quoi, quelque chose de complètement différent, mais on attend pour venir à la sortie BD, donc Tsugumi Oba et Takeshi Obata scénarisent et dessinent Bakuman, dont le tome 3 donc est sorti chez Kana, et si vous avez manqué l'émission du 31 juillet dernier,
tu vas faire un copier-coller. Non.
Non, presque, j'ai fait un lien hypertexte. Mais ça marche pas.
À la radio, ça passe pas.
Vous êtes passé à côté de la curiosité éditoriale qui nous a fait sauvagement triper. Bakuman est une série écrite par les auteurs de Death Note qui met en scène deux collégiens rêvant de devenir mangaka. Je rappelle pour les Ségolène Royal et les autres, mangaka veut dire dessinateur de manga. En soi, qu'on ait un manga qui apprenne un métier, ça n'a rien d'exceptionnel. Même si le genre est encore relativement peu traduit en France. Puisqu'il y a eu Gekitate Japan, où on apprend à faire du pain. Et il y a eu un autre manga, Les Gouttes de Dieu, où oui. On apprend à goûter du vin. Sauf que là, c'est une spécialité typiquement japonaise, c'est dessiner des mangas. Oui, mais non, en fait, manga, c'est bande dessinée. Donc, c'est pas une spécialité typiquement japonaise. Ok, soit. Le fait d'expliquer le métier de dessinateur dans un shonen manga, un manga pour garçons, évidemment, on s'attend à une certaine part de lyrisme. Oh oui, tu le sens, mon grand cosmos, je vais m'entraîner. Et là où on se prend une claque, c'est que c'est une série réellement éducative et que les auteurs jouent avec leurs propres lecteurs. Mashiro et Takagi, les personnages principaux, font donc le pari d'une réussite professionnelle et, avant leur majorité, de se faire prépublier dans une série dans Shonen Jump, premier tirage japonais d'un magazine de bande dessinée. Et cela fait un an que les jeunes devenus lycéens sont suivis par un responsable éditorial du Jump. Sauf que la série Bakuman est elle-même publiée dans Shonen Jump.
Oui, c'est une voilà, mise en abîme.
Ah, et que les deux associés vont découvrir avec les lecteurs comment vit une série, l'importance des votes du public sur sa vie ou sa mort, les difficultés du métier et pourquoi on trouve forcément de la baston et de l'humour tous les lundis à la station de métro. Pourquoi dans les autres pages de ce numéro va-t-on trouver Bleach, Shaman King, One Piece, Hunter x Hunter, Rookies, Yu-Gi-Oh, Naruto, pour les séries du moins qui sont déjà traduites en France, dans un certain ordre et avec certains ressorts dramatiques? Bref, tout ce que O'Neill réfractaire au manga qui ne s'arrête qu'à la partie la plus commerciale, la plus formatée de la bande dessinée asiatique. Tous les éléments, comme l'importance d'un découpage, l'usage d'un twist scénaristique, l'importance d'un personnage féminin, le design du méchant, bref, tout ça, les auteurs vont l'expliquer, puis la mettre en pratique dans la série. La folie furieuse des 20 pages en moyenne à dessiner chaque semaine, la pression des éditeurs, des directeurs éditoriaux, l'angoisse du classement de popularité des lecteurs, c'est à se demander comment ils font pour gérer le stress de la page blanche. Et c'est là que, justement, ce qui va arriver à Takagi, l'apprenti scénariste. Pour leur deuxième été, à tenir ce pari fou, il est essoré d'avoir sorti des dizaines et des dizaines de scénarii, de concepts, de découpages des 3 premiers épisodes inclus. Je rappelle, 3 x 20, 60. Et tout ceci en moins d'une journée si possible. Il est complètement lessivé et n'a pas d'idée. Pendant ce temps, et ayant besoin de pratiquer, l'aspirant dessinateur Mashiro accepte un job d'assistant chez Niizuma. Niizuma, ben, c'est le dessinateur ultra prodige, soutenu à fond par l'éditeur.
Attends, tu es en train de dire qu'il devient assistant de son rival, en fait.
Exactement.
Oh, la déchéance. Oh, la lose.
Mais en plus, le rival, il dit « Ah ouais, mais c'est toi qui as dessiné tel one-shot, mais moi je suis absolument fan, j'ai trouvé ça absolument génial. » Je vous l'avais dit, tous ces twists, on en explique la non-gratuité à longueur de page, et en plus, les auteurs se permettent de critiquer le système commercial qui ont fait leur succès. On n'est pas sorti de l'auberge, on est scotché, c'est-à-dire qu'on vous montre comment ça va marcher, et après, on vous le fait. Si vous vous souvenez un petit peu du twist que l'on a avec Schwarzenegger dans... Last Action Hero, il y en a aussi un autre aussi avec Schwarzenegger qui se passe sur Mars.
Total Recall,
c'est-à-dire on vous montre ce que va être le scénario et on va l'appliquer et ben on marche dedans et ça marche à fond. C'est quand même le ressort scénaristique le plus difficile à mettre en œuvre, c'est-à-dire vous expliquer le déroulé du suivant et quand même vous scotcher.
Oui.
C'est techniquement, je ne vois pas comment on peut faire plus compliqué. Et pourtant, on est littéralement scotché. Alors si vous aimez le manga, bon tant pis, hop, et que vous aimeriez avoir un regard critique, cette série risque de vous plaire. Si vous appelez Ségolène Royal, la ramenez pas avec votre brûlot écrit en 1989 et relisez Candy Candy, et vous nous faites pas chier. Bakuman, le tome 3 sorti chez Kana, de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Comment dire ? C'est énorme. Alors Thomas, toi...
Moi j'avais bien été scotché
non,
dans
parce
les...
Parce que j'avais pas mon stylo rouge sur la main, donc il y a des choses...
Oui, j'avais bien été scotché dans les deux premiers tomes, puisque en plus, quand t'es dessinateur, quand t'es scénariste, quand tu veux bosser là-dedans, ça t'encourage vachement, parce qu'il y a toujours l'émulation. C'est comme par exemple quand Jeanne et Serge avaient relancé la mode du volleyball au Japon, ou tout ce qui est à base de compétition, t'as toujours le héros qui va apprendre, il va être un monstre de travail, il va être un monstre d'apprentissage, il va s'entraîner, il va trouver des senpai, il va trouver des maîtres et tout. Et là, c'est pareil, ça t'encourage à dessiner, ça t'encourage à monter des projet, ça t'encourage à t'associer avec un copain pour monter ta BD. Bon, c'est l'émulation alliée. Et puis bon, c'est rigolo parce que c'est comme tu le disais la dernière fois, c'est vraiment les ressorts du shonen mais appliqué à la bande dessinée. Donc ils ont le rival. Ah ouais, mais lui. vous savez que vous avez un talent énorme pour votre âge, mais lui, il est encore meilleur. Ah non !
Voilà. Et là où c'est encore plus amusant, c'est que bon, on se dit, bon, allez, c'est de la fiction, des gamins de 15 ans qui, comme ça, vont se retrouver à avoir le prix Tezuka, qui est remis tous les mois, hein, il faut le signaler, par des éditeurs qui considèrent des auteurs comme étant vraiment talentueux. Et après coup, on apprend que, bah non, justement, des fois, on se retrouve avec des auteurs de 24 ans ou moins. Et on a un problème, c'est que pour qu'ils soutiennent le rythme continu de 20 pages, etc., on n'est pas au rythme franco-belge où les 20 pages, on les fait en 3 mois. Il hein. y a un problème, c'est qu'il faut leur mettre un assistant avec eux. Or, si.
Oui, ou plusieurs.
Ou les assistants, des fois, on les recrute pas forcément pour leur qualité de leur travail ou ce qu'ils peuvent faire, c'est des fois pour l'ambiance. Et imaginez bien que des assistants, il y en a certains, ben, ils sont assistants professionnels et, ou d'autres qui, à 35-40 ans, estiment toujours qu'ils vont pouvoir lancer leur propre série. Imaginez l'ambiance quand ils sont face à des gamins qui sont beaucoup plus talentueux qu'eux. Là, et ben, ça fait partie des ressorts. Non, je n'ai pas de pudeur à les dévoiler puisque justement, c'est ça qui est génial, c'est que malgré tout, on est dedans et on est à fond. Et moi, je ne peux que le recommander. Honnêtement, toi, les deux premiers tomes, tu les as lus en combien de temps ?
Ah, il faut savoir que c'est verbeux quand même. Hein.
C'est assez lourd. C'est même densité que Death Note, hein, des fois.
Ouais, chouïa un peu moins parce que Death Note, il y a
y a de la tartine.
Oui, et puis il y a tout ce qui est réflexion. Ah oui, alors si lui a fait ça, ça veut dire que lui, si je le soupçonne, eh ben.
Il y a des réflexions parce que des fois, il y a les analyses sur les scénarios. On vous donne un scénario et puis on vous dit ben, pourquoi ce scénario ne va pas marcher commercialement. T'es là, waouh! Et c'est là où malgré cette densité, toi, tu as mis en combien de temps?
Oh, je sais plus, mais j'ai mis pas mal de temps pour un manga comme ça. Parce qu'après, c'est pas Naruto. Tu parles de Naruto tout à l'heure, bon, c'est de la baston. Ça se lit très très vite là, il y a beaucoup de dialogue.
Ouais, je dois avouer quand même 6 heures pour les deux premiers tomes. Mais
ah ouais, quand même. Ah, moi, j'ai pas chronométré. Bon, après, c'est vrai que t'as pas parlé de la bleuette sentimentale où il fait. Parce que finalement, le dessinateur, il fait tout
parce
ça.
Parce qu'il pour... se tienne la bourre, tout ça, parce qu'il a un amour platonique.
Ah ouais, là, ils se toucheront, ils se regarderont, ils ne se parleront que quand ils auront réalisé leur rêve, chacun de leur côté.
Alors, lui, dessinateur de manga et adapté à la télé, et elle, doubleuse de manga.
Voilà, et puis on avait une scène
l'industrie est complète.
Et on avait une scène suraliste dans le tome 2 où ils se retrouvent tous les deux dans la rue, mais comme ils sont jurés de pas se parler, de pas se regarder, ben en fait, une scène sans parole pendant 25 minutes, ils sont là avec les feuilles au ralenti.
Voilà. Et les dialogues exclusivement par les tekai, ouais. C'est pas les SMS, hein, c'est l'email, c'est minimum 1000 caractères et en japonais, un caractère, on en met beaucoup, donc par téléphone portable. Donc c'est assez amusant, il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a aussi des changements graphiques assez subites de page en page pour vraiment relancer l'histoire. Ça fait partie des astuces pour. C'est là où on est. On marche dedans, je trouve ça génial. Bon ben, va falloir qu'on le soutienne auprès de la critique, hein. Bakuman, Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Je suis sûr que mes confrères vont dire bande dessinée, la franco-belge, voyons. Complètement autre chose. Du sport, si je te dis le mouillé, c'est dans la tête.
Oula. C'est tendancieux, ça.
Tu l'as bien vu.
Ouais, mais tu le sais d'où ça vient.
Le mouillé, c'est dans la tête.
Joe Bartim.
Ben, je suis le conducteur, bordel.
Ouais, non, mais bon.
C'est pas comme si je l'avais pas tapé.
Non, je fais semblant, quoi. Tu vois.
Joe Bartim, le 7ème tome, donc, est sorti et c'est chez Vent d'Ouest. Et cette fois-ci, c'est scénarisé par Pat Perna et dessiné par Henri Jeanfèvre. Bon, pour vous remettre dans le contexte, les motards qui fréquentent Joe Bar, puisque c'est le nom d'un bar, le Joe Bar, c'est le nom d'un bar à motards, j'en fais un peu trop peut-être, sont toujours des dangers de la route. Pas seulement pour les autres, mais surtout pour eux-mêmes. D'abord, ils pissent sur les Harley, et je dis quand même coucou à Coyote. Non, parce qu'il est capable d'envoyer son coloriste me taper la gueule. Adepte de l'optimisation de trajectoire et du boostage de moteur. Bon, alors j'explique à ceux de ma génération, le boostage de moteur, c'est un terme old school qui désigne un overclocking processeur sur une moto.
Non, mais ça, on l'apprend dans Fast and Furious. Hein.
Ah oui, d'accord. le Jobar Team, c'est une institution. Surtout pour le premier album qui fut dessiné par Bardeux dans un style très franquin fin années 70 et digne des meilleures planches de Gaston Lagaffe, avec vraiment les onomatopées en couleurs qui ont du volume, etc. Les motos où on commence à voir des détails sur le fond et puis le moindre boulon qui est en train de sauter, trucs comme ça. Bref, c'est du bonheur. Et ensuite, Bardeux a cédé le guidon de la série à Fein, qui produit 3 tomes. Assez drôle, mais au graphisme plus jeté, plus brouillant, je vais dire. Et là, le dernier album de ce dessinateur sur cette série fut un échec critique. Au lieu de se passer dans le milieu des motards, il avait pour cadre une boîte de pub. Bardeux, qui ne faisait que gérer la licence depuis plus de 15 ans, revient pour un album et trouve... revient pour un album où il essaie de sauver, et d'ailleurs il remet en selle... Désolé, les personnages qu'il avait créés, puisque Fein animait principalement les siens. Et il trouve un nouveau duo d'auteurs, Pat Perna et Henri Jeanfèvre. Alors si Jeanfèvre dessine comme Fave tout en créant les décors vraiment originaux et reprend sa génération de motards, les scénarios de Pat Perna, qui était déjà auteur de Paddock, série sur la Formule 1, sont eux aussi hilarants que le premier album. Alors moi qui suis un caisseux, bon, alors j'explique pour les geeks de mon âge, qu'est-ce que c'est un mec qui préfère jouer, je vais dire, à Wipeout plutôt qu'à Moto Grand Prix, mais en réel, en 3D, vous voyez, en solide. C'est moi qui donc est plus conducteur de voiture que conducteur de motard, et en général les motards, quand j'en vois un, ça me fait chier. Quand je suis sur la route, quand ils me doublent entre deux voitures, ça me fait vraiment peur. Ben là, je me suis gossé de rire. C'est une reprise magistrale d'une série qui s'était laissée aller dans un album à la trajectoire hasardeuse. Et finalement, la reprise en sortie de virage est plus qu'honorable. Elle est très bonne. J'ai vraiment eu le même plaisir que j'ai eu que dans le premier tome. C'est vrai que le premier tome, c'était le plaisir de la découverte et surtout le dessin, la style franquin que j'avais adoré. Et là, ben, Pat Perna et Henri Jeanfèvre, ils ont réussi à remonter l'album, la série à vraiment un très bon niveau. Jobar Team 7, c'est chez Vent d'Ouest et du sport, il est dessus et il n'a pas encore déridé une lèvre.
Non, mais bon, c'est juste pour dire que dans les remerciements et tout, il y a quand même des vrais pilotes hein, qui ont gagné des courses, William Coste entre autres, Alex Vira, qui ont gagné plusieurs fois le Bol d'Or, les 24 heures moto et tout ça, enfin bon, qui sont des pilotes confirmés. Et comme au départ, l'auteur originel est quand même un mec qui a fait beaucoup de moto, qui a bossé pour Moto Journal.
Il était journaliste. Hein.
Donc il n'y a pas de problème, hein, il baigne dans le milieu et tout, il sait de quoi il parle et tout. Mmh. Et bon, c'est de toute façon un des trucs cultes pour les pilotes, hein, je veux dire, même sur les courses de Grand Prix et tout, quoi. Jobar, c'est un personnage, hein, ça fait partie de la légende. Et de la mythologie de la moto. Hein,
moi, je suis arrivé dans...
Et pas qu'en France. Hein, c'est ça
qui est rigolo, je suis arrivé dans un bar de bikers une fois et on discutait BD avec un copain et le copain m'a dit oh oui c'est vrai que toi tu es critique BD et à côté j'entendais ça glissait ça mouillait tu attaquais toi non pas du tout c'était une petite bluette. Et en fait, c'était un dialogue. C'est-à-dire, il y avait 3 personnes qui faisaient au bar, à côté de nous, le dialogue d'un des sketchs, justement, du premier tome. J'étais là, j'ai fait, ah ouais, quand même. Donc, c'est là où tu vois que c'est une série qui a vraiment marqué, qui est importante, je veux dire, dans le milieu. Midi et 19 minutes sur la poubelle des radios FMR 89.1 MHz. Vous nous écoutez aussi sur le net en stream sur www.radio-fmr.net et le podcast suppléementweekend.fr. Oui Thomas, je sais, j'ai entendu une émission.
Tu sais que tu as des fans qui te poussent. Fais-le pour les fans.
Je parlais de Fane tout à l'heure à propos d'une trajectoire hasardeuse pour le Jobar Team numéro 5. Là, il fait le scénario et le dessin d'un album avec assisté à l'ancrage de Juan pour le terminer. La légende de Little Boost s'est sortie chez 12 bis édition. Question trajectoire hasardeuse. Fane a justement fait très fort pour une fois, mais du bon côté des choses. Puisque ce one-shot qui se présente comme je cite le sous-titre, « Désastreuse aventure de AB et la gribouille » mériterait justement de devenir une série. Or, c'est justement sur une série BD, mais de western, que travaillent ces deux auteurs. Contrairement à Mashiro et Takagi, bedding avec la précédente chronique, ils savent d'avance que leur histoire doit faire 48 pages, format A4, en couleur, net et sans bavure. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont à la bourre et que le bouquin doit sortir dans 3 mois. Bref, ils sont endormis dans leur atelier par cette nuit qui était très studieuse. Et le scénariste AB se réveille dans la BD. Dessiné façon grenée et interagissant avec les personnages, il se retrouve dans un western de papier. Directement, dans le saloon, discutant avec le bout de gras, avec le marshal qui veut lui tirer les vers du nez, à savoir où sont les indiens, les rebelles, les hors-la-loi, que le marshal en question, justement, accomplisse une justice expéditive et définitive, radicale. Bon, le problème, c'est que c'est pas exactement le scénario qu'avait prévu AB. Là, on en est encore qu'à la page 12 de l'album, et s'il commence à les buter de suite, c'est pas comment il va s'en sortir. Heureusement qu'arrive le dessinateur, la gribouille, qui se réveille lui aussi dans la BD, mais avec un pouvoir un peu spécial. Ce qu'il sait dessiner, il peut le matérialiser dans l'histoire. Par exemple, un canon scié pour s'échapper du saloon, et pourquoi pas une voiture décapotable pour une longue virée dans le désert. Ok, d'accord. Alors évidemment, le marshal n'entend pas exactement de cette oreille, et charge ses troupes tout droit sorties des tuniques bleues, les attraper au plus vite, qu'on en finisse avec les bandits du camp d'en face, que ce sont eux les héros, c'est vrai quoi. Et de là, vous dites bien, le scénariste est complètement paumé, le dessinateur a le pouvoir de matérialiser des choses dans l'aventure qu'ils subissent. L'histoire devient du grand n'importe quoi, mais du n'importe quoi qui fait hurler de rire. L'anachronisme est un ressort humoristique périlleux, il se trouve que Fane s'en sort sans aucun problème. Ajoutez à cela un vrai jeu avec le média BD sur la manière de feuilleter une histoire ou de faire des Deus Ex Machina de façon totalement éhontée. Et on a finalement un bon album. Fane m'a vraiment convaincu de ce côté-là que, ben oui, il faudrait que ça passe en série tellement que c'est grand. La légende de Little Boost, c'est chez 12 bis édition, c'est de Fane et Juan, et ça vaut vraiment le coup. Oui, non, mais... Duce.
Oui.
Ouais, en fait, c'était pour... Parce que là, j'étais parti pour me concentrer sur ma BD qui vient après, mais ce que tu en dis, en fait, j'ai pris dans mes mains et ça a l'air rigolo.
C'est...
Voilà, c'est tout. C'était pour demander si tu voulais la prendre. Voilà.
Tiens.
Voilà.
C'est une preuve de qualité, voilà.
Voilà.
Et comme on parlait de Deus Ex Machina...
Oh là là, quelle transition. Je disais, quelle
oui,
transition.
Oui, mais in latinum, in textum, attention.
C'est facile à dire. Allez, on parle aujourd'hui de Dieu à les boules, le tome 2. Est-ce que vous vous souvenez, j'avais chroniqué le tome 1 à l'époque où c'était sorti. Alors, c'est une bande dessinée, scénarisée et dessinée par Steven Lejeune, et c'est sorti chez Ankama. Alors... ne vous fiez pas aux apparences, au début ça commence avec une pin-up. Et la pin-up, elle fume un joint dans son salon en cramant un rat. Mais en fait, ne vous fiez pas aux apparences, c'est Dieu en personne. Mais suite à une catastrophe dont elle n'a aucun souvenir, Dieu a perdu sa vieille âme et se retrouve employé d'une supérette miteuse emprisonnée dans le corps d'un vieux débris. Décidée à démêler le pourquoi du comment, elle se trouve confrontée à une invasion d'aliens, une prise de pouvoir par des insectes dopés au super pouvoir divin. Donc c'est, vous l'aurez remarqué, c'est complètement barré.
Alors, non.
Voilà, donc je sais pas, si vous voulez jeter un œil.
Enfin, moi je connais le premier tome, j'avais trouvé ça absolument génial par les déformations. Enfin bon, scénaristique, puisqu'on en est qu'à l'histoire, moi j'ai trouvé l'histoire absolument gigantesque de Dieu qui a une gueule de bois et qui ne sait pas à quel péril il se retrouve.
Ah oui, bah là il est complètement amnésique, il sait pas du tout ce qui lui est arrivé, il est déchu, il a plus le corps de rêve qu'il avait, c'est une vieille. Il y a des, à un moment donné, il y a un passage en noir et blanc avec des espèces d'insectes qui parlent en langage SMS qui est super pénible à lire, enfin pas SMS mais en phonétique. Et alors tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à un moment donné, le dernier tiers de la BD, ça part sur autre chose. C'est juste, on suit les aventures d'un surfeur qui a rien à voir avec l'histoire. Alors dans le 2, bah c'est pareil, on a toujours des trucs complètement nonsensiques. Par exemple, à un moment donné, t'as Dieu qui prend en aparté le lecteur. Bon, il le prend de haut parce que c'est Dieu, alors il s'adresse à lui comme si c'était des crétins congénitaux. Et alors, elle dialogue avec apparemment une autre part d'elle-même qui est le dieu, un autre dieu masculin, et à un moment donné l'autre il lui dit non mais attention, dévoile pas trop l'intrigue parce que les lecteurs sinon ils vont pas vouloir lire la suite de la BD. Déjà que tu les as trompés parce que sur la couverture tu es avec ton corps de rêve alors que maintenant t'es une vieille. Ah oui, non, c'est vrai, t'as raison. Voilà, donc il joue avec le média bande dessinée, c'est assez rigolo. Et puis bon, on a toujours les trucs complètement crétins, t'as t'as une invasion d'aliens au milieu, alors tu sais pas trop ce qu'ils foutent là. T'as une armée de rats qui essaie de les arrêter, mais ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il explique rien au début. C'est-à-dire que t'as des rats qui essaient d'arrêter les aliens. Les aliens, tu sais pas trop ce qu'ils veulent. Ils veulent tout péter, mais en même temps, ils veulent pas tout péter. T'as les insectes qui sont dopés, ils vont prendre le contrôle mental de certains humains, donc les pousser à essayer de se rebeller contre l'ordre établi. C'est n'importe quoi. T'as des sauts dans le temps, t'as des jeux, t'as des jeux avec la narration, des prises d'aparté avec le lecteur, mais ça part vraiment dans tous les sens. Et moi j'avais des petites réserves en lisant le tome 1, je savais pas trop si c'était vraiment du n'importe quoi parce que c'était pas maîtrisé et que c'était un peu prétentieux, ou s'il y avait vraiment une volonté derrière, et vraiment c'est le côté positif qui remporte la mise. Et là tu vois que l'auteur il se fait plaisir, il a 40 idées par page, ça rappelle un peu Run mais en beaucoup moins, si tu veux, c'est moins un bel objet que Mouta Foucaz, mais c'est quand même aussi délire et aussi déjanté. Donc voilà, c'est une série à suivre qui est super rigolote, vous prenez votre pied en la lisant. Donc après, je sais pas, là j'ai les deux tomes, je pense que Xavier prendra le tome 2 s'il y en a qui veulent découvrir la série. Voilà. Bon, le graphisme, assez impressionnant quand ça passe en noir et blanc.
Le type... Ah ouais, enfin, il maîtrise.
Il n'y a rien à dire. Bon, après, c'est vrai que les couleurs un peu photoshopées, ça... on aime ou on déteste. Franchement, pour moi, ça passe. Donc, c'est vraiment une série de BD qui est vraiment délire et qu'on vous conseille. Donc, ça s'appelle Dieu avec un X à la fin, parce qu'apparemment, ils sont plusieurs, on ne sait pas trop. Dieu à les boules, tome 2, tome 1 et 2 par Steven Lejeune, et c'est édité chez Ankama Édition.
Bon, alors on me fait signe, il est peut-être 12h28, mais il est presque midi 30, donc tu es gentil Coco, tu passes la pub. Eh ben, rendez-vous tout de suite. Vous écoutez FMR 89.1.
Directors of Reservoir Dogs, Desperado, Pulp Fiction, From Dusk Till Dawn, Once Upon a Time in Mexico, Kill Bill, and Sin City. Tarantino and Rodriguez are back. Only this time, they're back to back with a double feature that'll tear you in two. First,
I got bit.
Bit by what?
If I told you, you probably wouldn't believe me.
Robert Rodriguez, Planet Terror.
Need you something. Open that door, will you, baby?
La
us.
Fair lady, your chariot awaits.
Quentin Tarantino's Death Proof.
Do I frighten you? Is it my scar? It's your car.
Two No Holds Barred feature length motion pictures for the price of one. Planet Terror and Death Proof. Only at the Grindhouse.
Voilà, donc ça annonce la couleur pour la chronique qui suit.
Ah, ça tombe bien, tiens.
Mais en chronique en bouquin, mais c'est en même temps lié au cinéma.
Je tiens à signaler pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, puisque je suis sûr que c'est 99% de nos auditeurs, c'était la bande-annonce de Grindhouse, le film co-réalisé... En deux parties, pardon, il y a JB.
Le double film, un réalisé par Tarantino et l'autre par son compagnon de tout.
Son compagnon de vie.
Voilà. Et
Roberto Rodriguez.
Et si vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, on a eu une annonce cet été, comme quoi Roberto Rodriguez allait adapter une des bandes-annonces qu'ils ont fait dans le film avec Featuring, où tu as que des stars, introducing.
Oui, les femmes loups-garous des nazis.
Voilà, et il a dit oh, je vais le tourner, donc c'est la première adaptation, donc ça. Alors, Greenhouse va devenir une série.
L'info était tombée il y a deux ans, effectivement. Il y a Machete qui...
Danny Trejo.
Ouais, avec Robert De Niro et d'autres...
toute la clique.
Introducing Robert De Niro.
Introducing Robert De Niro. Qui aurait chiffré le film. Et on a reçu des bandes annonces pendant l'été. Et le film vient juste de sortir sur les écrans américains. Je crois que c'était cette semaine.
D'accord. Alors, Thomas.
Alors, aujourd'hui, on parle d'un bouquin. Alors pourquoi on vous passe du Rodriguez du Tarantino? C'est parce que le bouquin est totalement ancré dans cet univers là et je vais laisser du sport nous balancer le pitch.
Attends mais... Vas-y.
Santa Mondega est un bled vraiment pourri d'Amérique du Sud. Il y a 5 ans, le terrible Bourbon Kid y a laissé un grand vide en zigouillant tout le monde. Aujourd'hui, la ville est à nouveau en ébullition. Deux moines pratiquant d'arts martiaux sont à la recherche d'une pierre magique qu'on leur a volée. Sanchez, le patron de bar de Tapioca, ferait bien d'arrêter de servir des verres d'épices aux étrangers. L'unique survivante des massacres d'il y a 5 ans se réveille amnésique après un long coma. Le lutteur invisible Rodeo Rex est de retour, chargé d'une mission top secrète. L'enquêteur spécial Jensen débarque au commissariat. Son domaine, c'est l'occulte. Un tueur à gages infaillible doit lui aussi buter un mec. Il s'appelle Elvis. Ah oui, j'oubliais. Le Bourbon Kid est de retour lui aussi. Ses victimes ont été retrouvées, les yeux crevés et la langue arrachée. Miam, miam.
So, para los auditorios que no comprende el español, en facto de... c'est quoi ce livre avec un programme complètement Z, ultra Z, complètement exploitation?
Et ça s'appelle Le Livre Sans Nom et non. C'est écrit par Anonyme.
Attends, tu veux dire le livre que tu avais d'immenses stand-up dans tous les hypermarchés que quand je les ai vus partout, je me suis dit « Oh putain, ça a l'air d'être une grosse bouse s'ils sont obligés de faire autant de pubs !»
Ben ouais, et en fait c'est...
Attends, tu veux dire que c'était bon?
Eh ben ouais, c'était bon.
Mais il fallait pas mettre de marge budget marketing.
Attends,
alors
attends, c'est pas parce que les grosses chaînes de distribution nous bazardent en tête de gondole et même en vitrine des bouquins de l'été et tout quoi, avec bien sûr Marc Lévy, que tous les bouquins qui sont dans la liste sont mauvais, tu vois. Moi aussi j'en ai un après qui faisait partie des 10 meilleurs bouquins de l'été, machin et tout, comme celui-là. Eh ben non, il y a quand même des bons bouquins.
Tu peux pas savoir, c'est à cause d'un billet de boulet que je rigole.
Ah oui.
Ou en fait, il fait vite grotter à la pile de bouquins de Marc Lévy, voilà.
Voilà, donc c'est le livre sans nom qui est sorti il y a quelques mois, là, écrit par Anonyme, et c'est édité chez Sonatine Éditions.
Excellente maison d'édition.
Alors moi je connaissais pas, par contre. D'accord. Donc le livre, a un peu fait parler de lui, parce que forcément c'est du Tarantino et du Rodriguez tout craché, le contenu, et c'est écrit par Anonyme. Donc le buzz, oh là là, mais ce serait pas Quentin himself qui l'aurait écrit? Bah en fait non, parce que quand tu lis l'histoire, c'est une mise en abîme, puisqu'il est aussi question d'un livre sans nom anonyme dans le bouquin. Donc on sait toujours pas qui c'est qui l'a écrit. Moi ça m'étonnerait que ce soit Tarantino Rodriguez, parce que franchement je vois pas trop l'intérêt de s'auto-citer. Alors parce que en fait j'en parlerai tout à l'heure, mais 90% du bouquin c'est juste puisé juste dans les films de Tarantino, les films qu'il a écrits ou qu'il a réalisés.
Bah donc, il a pas le temps, alors il a fait oh tiens je reprends ça sur le
film. Ouais, mais ouais voilà c'est ça, mais en fait ça passe vachement bien. Alors c'est marrant parce que
je photocopie les pages 14 à 25 du script.
C'est ça. Et alors t'as une citation en bas, enfin dans la quatrième de couve, c'est une critique de The Booklist. Plus on avance dans le livre et plus une angoisse nous étreint. Y aura-t-il assez de survivants dans l'histoire pour qu'on ait le plaisir de lire une suite? Donc, en fait, vous mettez dans la tête tout ce que vous aimez dans Tarantino. Donc voilà, même quand du sport a fait le pitch, vous avez reconnu la femme qui revient d'un coma, les tueurs qui se, le Elvis, bon True Romance, t'as tout, t'as les Mexican Standoff,
le verre de pisse dans les bars,
voilà,
Desperado 2,
voilà, bon t'as tout, tout ce qu'il y a, quasiment enfin, tout ce qu'il y a dedans. Même la dimension occulte, donc je ne dis pas de quoi il est question, mais à un moment donné ça part en vrille. Alors qu'au départ, ça, c'est vraiment dans un polar, et puis après, ça change de genre, donc vous voyez un peu de quel film je veux parler. Je vais pas dire non plus de quoi il est question comme créature ou comme univers, mais c'est vraiment, c'est juste un pur délire. Si vous aimez, ce style de film à la base, bon, c'est un plus. Si en plus les films ils sont très ancrés dans vos souvenirs et que vous les visualisez encore un peu, vous plairez à repérer les références. Et le point fort du bouquin, selon moi, c'est que tu les sens pas venir les références. C'est qu'après qu'elles soient arrivées, tu dis ah mais oui mais ça ah bah ouais bien sûr il a pioché dans tel film. Mais quand elles arrivent, c'est suffisamment bien foutu et bien amené et suffisamment fait avec suffisamment d'intelligence pour que ça passe vachement bien. T'as juste des crétins congénitaux, t'as des desperados, des coyotes, des tueurs psychopathes qui sont tous qui puent l'alcool, qui sont juste des gros bouseux. T'as les flics, pareil, ils sont racistes, soit les bras droits, c'est juste des brutes épaisses aussi qui ont leur manière de parler aussi. Par exemple, t'as les deux moines au début, c'est deux puceaux qui arrivent là, ils ont jamais connu l'alcool, ils connaissent rien à la vie, ils obéissent que aux lois de leur monastère. Alors oui, il faut être pur et tout, et puis à la fin il y en a, il se bourre la gueule à la bière et tout. Ouais, espèce de trou du cul, t'as vu, je me suis mangé une beigne, espèce de connard. Alors il parle juste à son copain moine, hein. Donc voilà, histoire elle part en couille, mais c'est vraiment délire. Voilà, donc si vous aimez le Tarantino, les Rodriguez, bon, le livre est fait pour vous. Et puis après ça, il y a un final dantesque. C'est le petit point négatif des films de Tarantino, c'est justement les dialogues à foison sur Madonna, sur la pop culture. Là t'as pas ça dedans, donc tu dis que quand tu commences un chapitre, tu sais que tu vas pas avoir droit à du tiens je préfère cette marque de lait par rapport à l'autre, parce que bon, et puis en plus quand ma femme elle prend du café, moi j'aime pas, parce que moi je préfère le café que je prends, parce que tu comprends la marque et tout, et puis si on parlait de massage et... mais là t'as pas ça dedans. Ça va à l'essentiel. Bon, un bouquin peut-être ça passerait moins qu'au cinéma en même temps, hein, je pense, avec les intonations en moins, les Mr Brown qui ressemblent à Mr Shit, t'as pas tout ça dedans.
T'as pas vu Reservoir Dogs cette semaine toi par hasard?
Non, mais bon, Mr. Bone, c'est Reservoir Dogs, mais il y a beaucoup d'autres références. T'as du True Romance dedans. Et puis, alors, t'as quand même des références à la pop culture, justement, avec les Rodeo Rex qui va dans un match de catch, etc. Et à la fin, t'as un final dantesque. C'est juste un hommage géant à la culture cinéma de genre. Mettons, on dira pas ce que c'est. Mais vraiment, c'est. Bon voilà, il se passe un truc il y a la lune, qui c'est une pleine lune. Je vous dis, il est absolument pas question de loup-garou, mais à un moment donné, il y a une énorme fête. et c'est le déclencheur, et il y a plein de trucs qui se passent à la fin, et ça part en vrille parce que le rythme du bouquin c'est quand même assez lent. C'est à chaque chapitre tu suis un protagoniste différent, donc tu suis l'un jusqu'à ce qui est un petit twist, tu dis ah mais c'est quand qu'on le retrouve, alors après t'as les deux moines, bon non ils sont chiants, et puis à la fin ah non ils vont aller trouver leur pierre, ah. Voilà, donc c'est que ça pendant tout le livre, ça joue sur la frustration du lecteur, c'est super rigolo. Et je le passe à celui qui me l'a réclamé en premier, donc c'est Duce. Voilà, le livre sans nom par Anonyme, édité chez Sonatine Édition, et c'est vraiment de la balle. C'est juste un festival de fou rire, et voilà, ça te met la banane.
Radio FMR, c'est le supplément week-end numéro 249, et pas de cinéma, là c'est plutôt littérature. Je tiens à signaler d'ailleurs que pour ceux qui nous suivent en direct sur Radio FMR à 14h, nous serons en direct du festival de rue de Ramonville, voilà, jusqu'à 18h normalement, donc voilà, erreur de ma part sur le déroulé, j'étais un peu rapide, hein, je l'ai fait un peu vite, mais en attendant... Moi, je promets quelque chose, tant qu'on est dans le cinéma de genre, puisqu'il y a un film qui va s'appeler Sucker Punch, et que c'était dans l'album que j'ai sous la main. Zou. Red Sniper Sucker Punch, justement. Featuring MC Geet.
Thank you. just in my world of football father that I just in my world of football father that I just in my world of football father that I just in my world of football five in my world of football father that I just back out loose inside of back out wide.
Red Snapper Flattering Empty Date, Sucker Punch, et donc on a retrouvé le nom du film, c'est Sucker Punch, et c'est par...
Comment tu dis
Sucker Punch.
Sucker Punch.
Il a dit Sucker Punch.
Sucker Punch.
Non, c'est l'accent.
Sucker Punch.
Sucker Punch.
Et donc c'est réalisé par Zack Snyder, à qui on doit 300 et Watchmen.
Ouais.
Et donc on reconnaît de toute façon les incrustations en fond vert.
Et l'armée des morts aussi.
Oui.
Oui, c'est pas mal ça.
Ah, bon, ça veut dire mec. Que ça... Ça veut dire que les autres étaient pourris. Tu sais que t'es pas du tout fan de 300.
Ouais. Je suis vraiment pas fan de 300. Après, le Watchmen, je trouve ça qu'il est vraiment très réussi, très proche, bien léché, parfait, quoi. Et 300, excuse-moi.
Bah, si, c'est vachement rigolo comme film.
Bon, merde. Ouais, ouais. Non, mais attendez, j'ai le fond sonore qui est calé pour la chronique
chier.
De,
mort de rire, là.
Du sport.
Ouais, 300, mort de rire.
Moi, j'aime bien 300.
Lol.
Oui, oui. Marrant.
Bon, ouais. Je vais mettre tout le monde d'accord. Alors, dans ce cas, je sais plus où c'est que je l'ai mis. Non, bah, je l'ai pas de prêt, voilà. Le fameux jingle.
Quoi, t'es pas prêt ?
J'étais pas prêt. Il est temps pour lui que cela cesse.
Voilà, allez, hop.
Merci.
On continue dans les bouquins,
ouais, alors,
qu'avec du texte et
oui,
sans image.
Oui, avec ouais, si juste l'image de couverture.
Quand même,
tu vois. Alors donc,
c'est du Marc Lévy. Alors,
c'est ce que je disais avant, pendant la chronique de Thomas sur le livre sans nom. C'est un bouquin qui est sorti cet été et qui faisait partie des soi-disant best-sellers et tout. On va vous en vendre un max parce que ouais, c'est le polar de l'été, c'est tout ce que tu veux. Et en plus, on a eu l'habitude, il y a beaucoup de temps, il y a très très longtemps, de ne parler que des polars. On est en France, français bien sûr, et les polars anglo-saxons, hein, qui sont, on va dire, à la genèse du polar. Hein. C'est quand même un anglo-saxon qui a pratiquement écrit le premier polar. Edgar Allan Poe, bien sûr, avec le double meurtre dans la rue morgue et puis tout ça. L'être volé, enfin bon, hein, je reviens de très loin en arrière, vous étiez pas né, moi non plus, je vous rassure. Et depuis quelques années, on va dire depuis une bonne décennie quand même, eh bien, la part est belle aux auteurs qui ne sont pas ni anglo-saxons, ni français. Et on va chercher dans des contrées un peu lointaines, des petits bijoux comme ça. Alors, le polar nordique a le vent en poupe depuis pas mal d'années, avec Mankell, avec l'autre qui a fait Millennium, là, Stieg Larsson.
Avec et James Bond.
Oui, enfin bon, il y en a plein comme ça. Il y en a des bons, il y a à boire et à manger. Hein, il y a aussi des trucs vraiment très merdiques, hein, il n'y a pas de problème, mais ça surfe sur la vague et tout. Et ça fait vendre de la paperasse. On oublie un petit peu aussi qu'il y a une autre race de bons auteurs de polar et tout. En particulier du côté de la zone ibérique, espagnole, mexicain, Montalbán et tout ça, c'est quand même des bons, des très très bons. Et du côté des Italiens, on était un petit peu en reste, il n'y avait vraiment pas d'auteurs qui sortaient du lot ou qui avaient réussi à se faire un nom. Et là, on a peut-être trouvé quelqu'un qui va peut-être dans les années futures nous sortir d'autres bouquins, car il s'agit d'un premier roman. De Donato Carisi. Donato Carisi, il est d'abord universitaire et puis criminologue, entre autres. Il a d'abord fait une thèse sur un tueur en série italien, Luigi Ciatti, le monstre de Foligno, dégommait des gens comme ça, qui vivaient comme un pouilleux d'ailleurs, et il était assez vieux, il avait presque la soixantaine, le mec. C'est une affaire qui a défrayé la chronique outre de l'autre côté des Alpes il y a une dizaine d'années, je crois.
Il faut dire Gaulle Cisalpine.
Et donc, il s'est tourné un petit peu après vers l'écriture de scénario. Et donc, Le Chuchoteur, c'est son premier roman qui a été vendu à 200 000 exemplaires en Italie et qui est donc sorti cet été en France. Alors, Le Chuchoteur, c'est une histoire de tueur en série, mais tueur en série un petit peu spécial. Alors, si je vous donne un petit peu la référence de tueur en série, vous allez me dire bah non, c'est pas bon parce que tu nous révèles un petit peu la fin du bouquin, c'est pas ce qu'il faut faire. D'accord ? Donc je peux pas vous le faire. Alors en fait, l'histoire démarre avec la découverte dans un petit bois, bien une espèce de charnier, c'est pas exactement un charnier, parce qu'on trouve qu'une partie du corps, mais du corps de 5 fillettes. Qui ont entre 9 et 13 ans, donc des préadolescentes, des adolescentes, et on ne trouve que le bras gauche, donc on trouve 5 bras gauches. Hein,
alors,
ça commence très fort, et on fait un petit peu la connaissance de l'équipe, qui est une équipe un petit peu spéciale, qui s'occupe de ce genre de meurtre, et qui est au début de cette aventure. Parce que ce qu'on va apprendre au fur et à mesure, c'est que ce sont des fillettes qui ont été enlevées depuis plus ou moins longtemps, hein, depuis plusieurs années même, hein, pour les premières, et qu'on n'a jamais réussi à les retrouver. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues, si c'est une fugue, si elles ont été enlevées, si elles ont été violées puis descendues. On ne sait rien du tout. Et c'est quand on découvre ces bras qu'on commence à supputer qu'on pourrait aller dans telle ou telle direction. Alors, cette équipe, elle est menée par un inspecteur en chef qui, lui, vraiment s'occupe vraiment de chapeauter le reste du groupe, mais qui ne s'immisce pas trop dans les enquêtes. C'est lui qui donne juste le feu vert pour dire ok, vous pouvez y aller, ok, vous faites ci, ok, vous faites ça. Le vrai chef de l'équipe, c'est plutôt le criminologue qui s'appelle Goran Gavilan. Ensuite, eh bien, il y a le reste de son équipe, hein, qui est composé d'agents de police, d'agents qui sont bon, un petit peu recrutés sur le tas pour leur fonction bien spéciale. L'agent spéciale Sarah Rosa, qui elle est spécialiste de l'informatique. Il y a Klaus Boris, qui lui est plutôt spécialiste des techniques d'interrogatoire. L'agent Stern, qui est lui le vieux de la vieille, il a moins d'un an de la retraite et tout, donc lui il a tout son background de flic, hein, de flic de base, mais bon bah il sert quand même à quelque chose. Et pour cette histoire, pour cette aventure, on va faire appel à une fliquette qui ne fait pas partie de l'équipe au départ, mais qui est quand même spécialiste dans la recherche des enfants disparus. Et elle a déjà résolu 29 cas de disparition. Elle a reçu des honneurs, une médaille, tout ça et tout. Et donc, elle va intégrer cette équipe pour essayer de résoudre cette enquête. Mais ce dont on va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire, c'est qu'on arrive à capturer plusieurs tueurs. Le premier, parce que bête le mec, c'est un représentant de commerce et tout, quoi. Et pour un bête contrôle d'identité, il a pas son assurance sur lui et tout, on fait ouvrir le coffre et tout, on trouve un cadavre dedans.
Okay. Oh, mais qu'est-ce qu'il faisait là ?
Alors on se dit super cool et tout.
Pour ma consommation
non, c'est pas
personnelle.
Ça. On va rebondir sur une autre piste et tout, à travers le net, à travers des messages qui ont été. Des chats qui ont été faits entre une des filles disparues, on va essayer de retrouver un autre mec.
Fais gaffe, on approche, on approche du point.
Du point spoil.
Et au fur et à mesure, eh bien, de fausse piste en fausse piste, on va
dire
dire,
le point le faire.
Ça va être vraiment, vraiment le truc où on va plus savoir, on va plus s'y retrouver du tout, quoi, parce que on va pas savoir. Parce qu'au fur et à mesure, les personnages disparaissent également, quoi. Hein, alors donc il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'aveu, il n'y a rien du tout. Et on n'arrive toujours pas à mettre la main sur le reste des cadavres. On n'a que les bras pour l'instant. Donc gros problème, énorme problème. Et il y a un espèce de twist à la fin qui est assez énorme, qu'on sent venir quand même au bout d'un moment, parce que on se dit, il y a quand même, à travers la description des personnages qui composent l'équipe, il y a quand même des espèces de faux-semblants, il y a des non-dits, des histoires passées. Il y a des histoires passées, cette équipe a un passé commun, et il y a une histoire de cette équipe qui n'est pas révélée à la nouvelle venue Mila Vasquez. Il va falloir qu'elle fasse son enquête en interne, enfin toute seule, pour savoir ce qui se passe. C'est vachement bien mené et tout. Tous les personnages sont un petit peu louches, un petit peu bizarres, dans l'équipe des policiers, quoi, hein, pas au niveau des criminels. Et donc on est là avec en plus l'amoncellement de trucs bien glauques, de cadavres qu'on va commencer à retrouver au fur et à mesure. Mais alors je vous laisse Je vous explique même pas dans quoi on les retrouve. Enfin bon, c'est vraiment, vraiment glauque au possible, dégueu au possible. Et bon, on arrive à la fin avec un espèce de twist complètement énorme et tout. Mais on se dit, bon bah ouais, quand même, c'est vachement plausible et tout. Et avec, en filigrane, tout au long du livre, quelque chose qui ne fait pas partie de l'histoire, mais qui a un rapport sur un type qui est emprisonné. Et donc on sait pas, on sait rien de lui, il y a juste une description qui est faite par le directeur de la prison et tout. C'est un mec, on connaît pas son nom, on sait pas qui il a été emprisonné, il laisse aucune trace derrière lui, quand il bouffe et tout, il ramasse toutes les miettes et tout, il se lave toujours, on ne peut pas lui choper de traces ADN de ses restes, parce que bon, il nettoie tout avec une méticulosité incroyable et tout. Et bon bah, il s'avère que bon bah, ce type y est quand même un petit peu pour quelque chose, quoi, même s'il est en prison du début jusqu'à la fin du bouquin, hein. Et donc c'est assez bien foutu. Et du fait que Carisi, bah lui, il est criminologue de formation, et bon bah, il a bien étudié tous les serial killers, toutes les différences qu'il pouvait y avoir entre les différents serial killers de par le monde, eh bien il nous propose une explication après la fin du bouquin, qui est plus une explication documentaire, hein, sur le type de serial killer dont il était question dans le bouquin. Et là c'est vraiment très très pertinent et tout, quoi. C'est vraiment très très fort de sa part, il n'y a pas de problème. Alors pour vous dire encore, entre autres détails un petit peu scabreux, on va dire, Mila Vasquez, celle qui arrive dans l'équipe et tout, chaque fois qu'ils essayent de trouver un nouvel indice ou une nouvelle preuve pour essayer de capturer le criminel ou les criminels et qu'ils échouent, elle s'inflige des coupures, c'est-à-dire elle rentre chez elle prend un cutter et tout, elle se découpe le bras, elle se découpe une jambe et tout. Donc au fur et à mesure de l'enquête, elle est obligée de foutre des fringues et tout pour pas monter ses bras. C'est vraiment un truc un peu glauque et tout.
Scarification,
ouais, carrément. Ouais. Enfin bon, elle s'entaille le bras au cutter, enfin des trucs comme ça, elle se laisse saigner un peu et tout. Aïe, ça fait mal et tout. Oui, non, mais c'est normal, j'ai échoué, donc il faut que je... Il faut que je ressente la douleur.
Pénitence.
Ouais, oui. Vraiment, c'est. On sait pas. Alors, là où c'est aussi vachement très très fort, c'est que dans tout le bouquin, il y a plein de descriptions qui sont faites de lieux, d'endroits où se situe l'action. Mais on ne sait absolument pas dans quel pays c'est censé se situer. D'ailleurs, quand on se dit Donato Carisi italien et tout. Mais par contre, au niveau des personnages principaux, hein, principaux que j'ai cités, Goran Gavilan, bon, bah, c'est plutôt des pays de l'Est, pays Balkans, des Balkans. Mila Vasquez, bon, on irait plutôt espagnol. Sara Rosa, là, ça se rapproche un petit peu de l'Italie. Klaus Boris, bon, bah, c'est plutôt au-dessus. L'agent Stern, enfin bon, bref, on ne sait pas du tout. Et il n'y a aucun nom de ville ou d'endroit qui laisse supposer que ce serait en Italie. Donc là aussi c'est assez fort, quoi. C'est écrire un bouquin sans qu'on sache exactement où ça se passe. Là c'est vraiment très très bien foutu. Bref, c'est un très bon premier roman, hein, Donato Carisi, donc le chuchoteur, c'est paru chez Kalman Levy. Et c'est vraiment le genre de bouquin, tu commences à lire et tout, tu dis waouh, ouais, bon bah, il faut y aller, faut se le tartiner et tout, quoi, les quelques 450 pages et tout. Les tartines vraiment sans problème en moins de deux jours, si t'es vraiment dedans, quoi, y a pas de problème, quoi. Donc je rappelle encore Donato Carisi, le chuchoteur, vous l'avez certainement vu si vous êtes passé devant les grandes enseignes, c'était en vitrine carrément, mais ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes.
minutes et 51 secondes, et on n'aura pas le temps de passer le bip du top horaire, et comme j'ai oublié que ce serait dommage de le mettre parce que ce serait dommage de le mettre pendant le Rat Pack.
Like the wallpaper sticks to the wall, like the sea shark clings to the sea, like you'll never get rid of your shadow, Frank, you'll never get rid of me. Let all the others fight and fuss, whatever happens, we've got us. We're closer than pages that stick in a book. We're closer than ripples that play in a brook. Wherever you'll find him, you'll find me, just look. Closer than a miser or the bloodhound's Deliza me.
We're closer than smog when it clings and to L.A. We're closer than Bobby is to JFK. Not a soul can bust this team in two. We stick together like glue. And when it's a sleeping time,
that's when we rise.
We start to swing,
swing to the skies.
Our clocks don't chime.
What a surprise.
They ring. A ding ding. A happy new year.
And now to repeat what I said at the start, they'll need a large crowbar to break us apart.
We're alone but far from blue. Before we get finished, we'll make the town roar. We'll make all the late spots and then a few more. We'll wind up at Jilly's right after Toots Shore. Life is gonna be a wee wow wee for my shadow and me.
Say, Frank.
What is it, Sam?
Would you do me a favor?
What do you want now?
Would you mind just taking it one more time?
From the top?
No, from the ending.
Wonderful. And while we are swinging, to mention a few, we'll drop in at Danny's, the little club too. But wind up at Jilly's, whatever we do,
yeah,
life is gonna be a wee wow wee.
My Shadow and Me. Alors, d'après toi, du c'est qui est qui?
Bah, il y avait Sammy Davis et puis Frank Sinatra.
Gagné, voilà, du Rat Pack. Extrait du Best Of.
Et c'est d'ailleurs Sammy Davis qui fait le chant principal. Hein.
Genre, oui, oui, d'ailleurs.
Sinatra, il fait que les répliques, en fait.
Mmh. C'est extrait du Best Of de Rat Pack. Tu me le regardes avec Davis. Bon, d'accord, ok, j'ai compris.
Non, non, parce que moi, j'ai le coffret de 4, alors c'est bon.
Allez, on finit par les Ocean Eleven et on passe à autre chose.
Ouais, ouais, ouais. On commence par des séries à la télé avec tout d'abord. Alors, on me reproche souvent de parler que de trucs sérieux qui concernent que les plus vieux et d'avoir une culture normale, on va dire. Hein. Alors, voilà, là, de la culture décérébrée pour les ados, à fond les manettes, ça passe sur MTV
cons.
Ce soir.
Non, non, non.
Je ne l'ai
non.
pas dit.
Non!
Je ne l'ai pas dit.
Non! Si, tu l'as dit!
Une série qui parle des problèmes essentiels des adolescents.
Le cul.
Voilà, tu as tout compris.
Espèce de salaud.
Ça s'appelle Hard Times et ça passe donc ce soir sur MTV à 22h25. Alors, la série, c'est très simple, ça se passe dans un lycée américain, bien entendu. Et vous imaginez, dans ce lycée américain, il y a toujours plus ou moins quelqu'un qui souffre douleur. Enfin, généralement, c'est...
C'est pas le cheerleader.
C'est le petit gros avec des lunettes et tout, celui qui ne se tapera jamais, la cheerleader, bien entendu. Mais sa vie va changer, parce que au détour d'un vestiaire, eh bien, tout le lycée va être au courant, bien entendu, quoi. Au bout d'un moment, eh bien, il a une grosse, mais une énorme...
D'accord.
Et donc, son statut change du tout au tout.
Bon.
Voilà quel est le pitch de Hard Times. C'est ce soir sur MTV à 22h25.
Merci. Attends, je viens de comprendre le jeu de mots avec le titre. Pardon, excuse-moi, mais j'oublie à chaque fois que tu es là. Pardon, dis-le, JB.
Hard Times.
Oui, bah Hard Times, il y a une double traduction. Quoi.
Bien sûr. Voilà. Mais je ne la traduirai pas.
Non, mais toi, bon. tu as le gland vert et du sport le gland jaune et Thomas le gland rouge.
Bip.
Et ouais, quand ouais, elle est trop ensemble, ça fait le pot de la Jamaïque.
Et moi j'ai le noir, d'accord.
Cher ami l'éditeur, il parlait de la,
Couleur de des bonnettes de micro.
De la couleur de la mousse qu'il y a sur le micro.
Ah ouais,
alors, ça vole très très haut avec
un résumé d'émission, tu vois.
Rastaman Vibration. Bon, on redevient un peu sérieux avec une série que j'ai non pas découverte sur cette chaîne là, mais sur Canal Jimmy. J'y reviendrai un peu plus tard. Ça s'appelle Leverage. Leverage qui signifie soulagement en français, chers amis. La saison 2 passe sur TPS Star à partir de lundi 20h40. Qu'est-ce que c'est ? C'est une version moderne de Robin des Bois, en fait, dans laquelle Timothy Hutton joue le rôle d'un chef de bande qui organise un petit peu les différentes actions, réactions, avec dans son équipe Christian Kane qu'on a vu, qui est le curé dans Buffy par exemple, et qui est lui plutôt spécialiste du bourre-pif, des flingues, de tout ça et tout quoi. Enfin bon, oui, généralement il a pas de flingue, et mais bon, alors la première scène que tu vois dans le premier épisode et tout quoi, il rentre dans une pièce et tout, il y a 7 ou 8 mecs et tout, allez vas-y file-moi la cam et tout le bordel et tout, et hop, au bout d'un moment il y a tout le monde qui braque son flingue sur lui, puis lui il est là les bras ballants et tout quoi, et 30 secondes après et tout, ils sont tous dégommés, raide mort et tout, et lui il est là, ouais, j'ai eu ce que je voulais et tout, tranquille, enfin bon voilà, c'est le genre de mec. Liz Goyer qui est lui le black de service qui fait les vannes de black bien entendu, mais qui est spécialiste de l'informatique, et Madeleine Rogers qui joue le rôle d'une anglaise, qui est anglaise pardon, mais qui joue le rôle d'une nana qui s'est barrée de chez elle très jeune parce que son papa il la tapait parce qu'elle voulait que voler des trucs et tout quoi, et puis donc son papa il disait non parce que là j'ai remarqué que tu l'avais volé, donc tu as mal fait, la prochaine fois essaie de pas te faire choper et tout quoi, donc elle se barre en courant et tout, en dynamitant la baraque avec les parents dedans, et puis bon elle devient voleuse professionnelle, genre à la Black Cat quoi, tu vois, dans Spider-Man quoi, un petit peu le même genre. Et donc Timothy Hutton réunit tous ces gens là et décide de pratiquer le soulagement des victimes, c'est-à-dire des gens qui ont été victimes d'une injustice, d'un truc comme ça et tout, et ben ils vont s'attaquer aux gros, généralement, alors des grosses sociétés, des gros trucs et tout, qui sont responsables de la ruine de petits ouvriers ou de gens qui ont tout perdu dans une grosse histoire et tout, et généralement c'est toujours les multinationales qui sont à l'origine de ces trucs-là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et ben ils vont braquer ces multinationales pour rendre une partie du pognon et tout, et bien entendu hein, se payer sur la bête, bien parce que bon bah il faut bien vivre hein, de toute façon, et il faut bien s'équiper pour pouvoir avoir d'autres missions. Donc c'est un petit peu ça le principe de Leverage. Ça fonctionne pas mal, c'est assez rigolo et tout, c'est chaque fois des one shots pour par épisode. Donc c'est la saison 2 qui commence sur TPS Star, mais vous avez une piqûre de rappel, donc je le disais en préambule, sur Canal Jimmy qui vous diffuse la saison 1 en ce moment, et là sur Canal Jimmy ça passe jeudi à 20h40, et sur Jimmy et sur TPS Star vous pouvez le voir en version originale. Sinon ça a fait du bruit, énormément de bruit lors des derniers Emmy Awards. C'est la grande gagnante, and the winner is Mad Men. Bien entendu, la série qui a raflé un nombre assez incroyable d'Oscars.
Ça fait 3 années de suite d'ailleurs pas des Oscars.
Des Emmy et en compagnie de The Pacific, hein, la nouvelle série de Canal. Mais là, bien Canal vous diffuse bien le début de la saison 3 donc de Mad Men avec 2 épisodes. Et on a également Mad Men qui est diffusé sur Série Club. Ça se passera demain soir. Alors Mad Men sur Canal+, c'est dans la tranche jeudi. Donc jeudi, c'est Série sur Canal+. Et là, ça passe à partir de 22h15. Par contre, Série Club vous diffuse, et là, c'est la bonne piqûre de rappel, parce que vous diffusez Mad Men depuis le début. C'est la première saison et c'est numéro 1 et 2. Et ce sera demain soir à partir de 20h40. Également en version originale, pourquoi se priver les gars. Et c'est le retour de
Law and Order
spécial unit lundi saison 11.
Des crimes particulièrement affreux et ignobles font que on ne peut parler de ces histoires au journal de 8h. C'est pour ça qu'on passe l'épisode à 5h15.
Le dimanche après-midi, quand les gosses sont à la maison. Ça passe donc la saison 11 sur TF1 à partir de 22h30.
Donc c'est celui avec Chris Noth maintenant.
Non, c'est celui avec Christopher Meloni.
Ah oui, je lui confonds avec...
Et Mariska Hargitay. Et Ice-T.
D'accord. Et Richard Belzer. D'accord. Et Dan Florek.
Ok, c'est celle-là.
D'accord. Ok. Et avec le curé dans Oz.
Avec le chinois.
Ouais.
Oui.
Enfin, le... Qui joue le rôle du curé dans Oz.
Wong.
Ouais, ouais, Wong. Ça s'appelle tous Wong. Et donc, pour cette. pour ce spécial unit. Il faut le rappeler que Law and Order, la série originale, s'arrête à la 20e saison. On n'a pas encore vu la 20e saison en France. Elle va très, très, très prochainement débarquer sur TF1 dans le désordre, comme d'habitude, ça c'est clair. Donc, ce spin-off, donc New York Special Unit. En attendant d'ailleurs, Law and Order, Los Angeles, nouvelle saison, nouvelle déclinaison. Mais bon, on essaie de faire avec 209 et tout, parce que bon, 20 saisons qui se passent à New York et tout, les gens commencent un petit peu à en avoir marre. Ok, bon bah tant pis, c'est dommage, ça... ils trouvaient bien leur rythme avec les nouveaux, avec Jeremy Sisto, avec Anthony Anderson et tout, c'est dommage, je trouve, mais enfin bon, bah ok, hein, c'est Dick Wolf, et puis tant pis, quoi, on voudra pas trop pour ça. Par contre, New York Special Unit est une déclinaison, un spin-off qui marche très très bien, qui a un super succès d'estime, qui a pas trop de téléspectateurs, hein, qui cartonnent pas au niveau audience à fond les manettes, bon c'est normal vu les sujets un petit peu... Hein, un peu glauque, quoi, on va dire, bah, c'est normal, c'est le but de la série. Par contre, le tandem Meloni-Arguitet marche super bien, donc toute l'équipe a été reconduite et on en est déjà à la saison 11 avec les premiers épisodes donc diffusés lundi à 22h30. Le premier, Flic ou Voyou, avec le héros de Prison Break. Toutes les filles vont être là, les
Wentworth Curry, Miller.
Oui, oh oui,
mais
oh
qu'est-ce
oui,
que Phil
Mais généralement, quand t'es dans New York Special Unit, c'est que bon, t'es un peu glauque, quoi, quand même. Quoi. Bon, on va ce qu'il est foutu de faire. Et un deuxième épisode qui s'appelle Un bagage de trop. C'est également bien avant Mad Men jeudi sur Canal Plus à 20h50. C'est la saison 8. Ce sera la dernière. Il l'a dit, Jack.
Ah, Jack Bauer.
Jack Bauer est de retour pour 24. Et on a également, toujours en série, sur Paris Première, Shark, la saison 2, qui démarre à 23h05. Pourquoi ?
James Woods.
Avec James Woods, bien sûr, Jerry Ryan. Hey, hey. Pourquoi 23h05 ? Parce que, pour vous mettre un petit peu dans le bain, on vous passe les trois derniers épisodes de la saison 1, donc du 20 au 22. Avec, entre autres, ben, vous comprenez pourquoi il y a un des inspecteurs de la bande qui enquête pour James Woods, pour le procureur donc, qui n'est pas là dans la saison 2, parce qu'il lui arrive un petit truc désagréable vers la fin de la saison, hein. C'est Raymond Cruz d'ailleurs, c'est le mec qui joue le rôle du jeune dans Stargate, le film, tu sais, le jeune de la tribu là, quand ils atterrissent et tout, quoi, puis...
Oui.
Hein, quand ils atterrissent là avec leur vaisseau et tout, quoi.
Ah oui, le jeune James T. Kirk au début.
Non. Stargate.
Ah, Stargate, pardon.
Stargate.
Ah, le jeune, le petit brun, là.
Ouais, le petit brun avec les cheveux longs, là.
Oui. Voilà. C'est Scara, je crois, il s'appelle. Ou... Oui. Qui voilà. fait pot.
Voilà. Et qui fait partie de l'équipe de Shark, d'ailleurs. Hein. Bon, mais il a plus les cheveux longs, hein, c'est sûr. Il a un costard et tout, quoi. C'est plus les mêmes costumes du tout. Donc, lui, il disparaît. Bon, bah, ok, je vous dirai pas comment, quoi. Mais par contre, Shark, bon, bah, ça marche bien. James Woods, il est excellent. Il en fait un petit peu de trop.
Ah, bah,
Moi, j'ai enfin vu le premier épisode et putain, mais c'est énorme, quoi.
Oui, sur, mais attends, parce que j'ai vu le premier épisode, il est encore un petit peu en retenue.
Ouais, mais je trouve trop gentil, moi, les séries. Mais j'ai pas vu tant que ça.
Ah non, dans le premier, c'est un pire salaud, cynique au possible et
dans
tout.
Dans le premier,
et puis,
on
a un remords.
Parce que dans le premier, c'est un Shark, parce que c'est un avocat de la défense, mais qui défend que les pires criminels que la Terre puisse porter.
Non. Il défend les meilleurs budgets.
Oui, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de pognon. Et il va passer de l'autre côté, c'est-à-dire devenir procureur. C'est-à-dire devenir accusateur, défendre le peuple. We the people, hein, c'est ce qu'ils disent dans les tribunaux. Quand ils parlent de sentences.
J'ai remarqué deux choses. Bon, primo, c'est dommage que ça soit terminé sur la deuxième saison et la série finalement est arrêtée. Il était question d'une rumeur, d'une reprise par DirecTV, un truc comme ça. Ça n'a pas été le cas. Mais surtout, les noms des épisodes, tenez-vous bien, c'est que des noms de films.
Eh oui.
Ah bon ?
Et tu as Wayne's World 1, Wayne's World 2, Wayne's World 3.
Oh.
C'est dispersé dans la saison, des trucs comme ça. Et t'en as que des comme ça. Tu regardes, tu fais ah ouais. Oh, ah ouais.
Donc Shark, c'est demain soir, toute la soirée, hein, de toute façon, quoi.
Par pack de 5.
Et puis bon, dimanche dernier, c'était carrément la nuit marathon avec 9 épisodes. Carrément quoi, genre on liquide vite fait la saison 1 et tout pour pouvoir rediffuser les épisodes de la saison 2.
Et c'est sur quelle chaîne t'as dit ?
C'est sur Paris Première. Sur Paris donc, Première. Donc ouais. En version originale, donc ça vaut le coup quoi. Et sinon une petite curiosité aussi sur France 3, c'est ce soir à 22h40, c'est une série policière canadienne qui s'appelle Les Enquêtes de Murdoch avec l'excellent Yannick Bisson, ça c'est un très bon acteur. Hein. Y a également Ellen Joy, Thomas Craig et Lachlan Murdoch. Qui n'est pas le personnage principal hein, de Murdoch, Lachlan Murdoch qui interprète le, le rôle de l'inspecteur Higgins, hein, donc ça n'a rien à voir. Hein, ok. Donc c'est ce soir sur France 3 également à 22h40.
Du sport, spécialiste des accents.
Alors, série de films à la télé cette semaine, polar et western. Pas beaucoup de western, pas mal de polar. En particulier parce que si vous avez bien remarqué sur Arte tout le mois il y a pratiquement que des polars 2-3 fois par semaine qui sont diffusés au fur et à mesure de la grille d'Arte donc avec on a pu voir Reservoir Dogs cette semaine et tout on a vu également Dawn, la chasse à l'homme, l'excellent Bollywood avec Shah Rukh Khan avant-hier. Excellent, hein, très bon, avec un très bon doublage français d'ailleurs, ça c'était à souligner, pas de problème. Bon, je l'ai pas mis en allemand parce que Shah Rukh Khan qui parle allemand ça le fait pas, je trouve quoi. J'ai essayé, mais bon, ça le fait pas quoi. Non,
il a t'as essayé quand même.
Oh, oui, quand même, quand même, faut essayer quoi.
Quand même, tous les vices ce mec. Oui. C'était quoi JB, ta blague favorite? Le client qui vient dans le vidéo club et qui demande Kurase Potemkin sous-titré en tchétchène ou un truc comme ça.
Je m'amusais à trouver des noms, à dire que je pouvais lui trouver en mandarin, sous-titré en mandarin, n'importe quoi.
Alors, ça commence par un bon Peking-Pah, c'est son deuxième.
Western, qui parle.
Ce soir sur RTL9 à 20h35.
Ah, bah oui,
normal,
on est
RTL.
On est samedi.
Samedi, RTL, 20h35, c'est Western. Donc, Major Dundee, un film qui est sympa avec Charlton Heston, Richard Rice et James Coburn. Sur TV Braze ce soir à 20h40, un Columbo qui s'appelle La Montre Témoin, qui est réalisé par Patrick McGowan. Sans Patrick McGowan dedans, c'est le seul d'ailleurs, je crois qu'il est réalisé, où il ne joue pas également le rôle de...
le rôle du méchant.
Du méchant,
oui.
Hein, mais c'est autre bon méchant des Columbo, Robert Vaughn.
Oh,
il y a également classique. Fred Draper et Diane
L'homme
Baker.
De l'oncle.
Patrick McGowan a joué plusieurs fois le méchant dans Columbo.
Oui.
Bah oui.
Alors, parce qu'en général, tu te
au moins deux fois.
Une fois, et puis après, bah voilà, t'es coffré.
McGowan
et...
en a non, réalisé
mais...
3 ou 4.
C'est pas le même rôle en fait.
C'est pas le même rôle, tu sais, c'est comme le numéro 2. Mais je repars.
Alors, demain sur Arte, un chef-d'œuvre du cinéma à 20h40 qui n'est pas vraiment un polar, mais enfin bon, c'est quand même un film d'espion, on va dire d'espionnage. C'est Casablanca de Michael Curtis en 42. Hein, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Heinrich, Claude Rains et Conrad Veidt. Qui est Conrad Veidt? Vous l'avez certainement déjà vu. Pourquoi? Parce que si vous êtes féru du 7e art et que vous êtes allé chercher même pour avoir soi-disant une culture cinématographique imparable, vous connaissez Le Cabinet du docteur Calgary,
oui,
ce fameux film muet d'Oscar Wiener en 1923. Si. Eh bien la créature, c'est Conrad Veidt.
Ah non, on ne connaît pas beaucoup. Alors.
Alors Conrad Veidt qui a joué dans un nombre incalculable de films, enfin il a joué dans une quarantaine de films muets au moins, en Allemagne, bien sûr, il est allemand, mais bon, il n'aimait pas trop ce qui se passait en Allemagne dans les années 30, donc il fuit l'Allemagne en 34 pour aller en Angleterre. En Angleterre, il tourne également des films, enfin, il joue également dans des films, par exemple, L'Espion Noir en 38 de William Powell, Le Voleur de Bagdad du même William Powell en 40. Ensuite, il part aux États-Unis et il va jouer pour Mervyn Leroy, pour George Cukor, pour George Sherman,
wow,
pour Jules Dassin. Et il termine sa carrière par ce dernier rôle, Casablanca, donc en 42. Alors spécialiste, bien sûr, des rôles d'espions nazis, de mecs retors et tout, c'est normal.
Il a la langue natale qui vaut.
Malheureusement, il meurt peu de temps après cette dernière participation donc, à ce grand film qu'est Casablanca, Conrad Veidt. Donc c'est demain soir sur Arte. À partir de 20h40 dans Casablanca. Avec
ça...
aussi Humphrey Bogart. Hein.
Oui, tu l'as dit. Oui, Ingrid Bergman. Ouais,
mais il vaut le coup, très bon film.
Ah non, non, mais excellent. Et même il meurt à la fin. Si, on peut le dire, quoi, quand même. Quoi. 13e rue, demain à 20h40. Un flic de Melville avec Catherine Deneuve, Alain Delon, Richard Crea. Sur Canal Jimmy, il y a également Jackie Brown de Tarantino demain soir à 20h40. Sinon, lundi, Arte toujours dans la case Polar à 20h40. Le Doulos de Melville, mais là c'est en 61 avec Jean-Pierre Belmondo. Celui-là, il est très bon. Reggiani et Jean de Sailly. Sur Paris Première, Point Break de Catherine Bigelow. Excellent.
Qui nu.
Patrick Swayze. Gary Buzet, qui des trois était certainement le meilleur surfeur d'ailleurs. Laurie Petty, bien entendu. Gary Buzet. Non, mais c'est pas des conneries parce que Gary Buzet, il a appris le surf. Gary Buzet, qui a un bouseux qui vient de l'Oklahoma, un patelin.
Ouais, un coin très connu pour les grandes rives sur les océans.
Et qui a appris le surf parce qu'il a joué dans le film Big Wednesday, qui est un des meilleurs films de surf du monde, écrit et réalisé par John Milius. Hein, ah ouais. Et comme par hasard, eh bien, dans l'équipe magazine de cette semaine,
oh là là, quel enchaînement, mais il est trop fort.
Nous avons carrément dans Mac Plus, eh bien, Point Break vu par les surfeurs.
Mais
les vrais surfeurs.
Point Break, c'est Point Break.
Ouais, mais
tu veux dire qu'ils sont allés interviewer Brice de Nice.
Ouais, mais attends. Alors, tout d'abord, la question, un film réaliste. Est-ce que c'est un film réaliste sur le surf? Alors, le Tim Ball, le Français qui est champion d'Europe de surf, il dit que ce film ne reflète pas du tout le milieu du surf. C'est une caricature pas très réussie. Keanu Reeves et Patrick Swayze ne sont pas crédibles. N'importe quel surfeur qui regarde ce film rigole en les voyant.
Bah ensuite, oui, c'est bien connu que des surfeurs se financent en braquant des banques.
Ensuite, attends, Mick Fanning, Australien, double champion du monde en 2007 et en 2009. Catégorie au-dessus, on va dire. Quand le film est sorti, avec mes potes, on se ressortait toutes les répliques, on a regardé le film en boucle, on ne s'en lassait pas. Après, ça ne représente pas vraiment le milieu, mais ça montre combien le surf peut être addictif. Plus intelligent quand même comme réponse, je trouve. Et ensuite, on termine
consensuel,
par
peut-être.
Wigoli Dantas, un Brésilien qui est vainqueur du Lacano Pro de cette année, hein, qui dit « C'est peut-être le meilleur film grand public qui montre la culture surf. » Et ensuite, on leur demande quel est votre culte, film culte de surf. Alors, le mec il dit The Endless Summer. Alors là, c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un documentaire sur le surf. Mais enfin, c'est magnifique. Hein, ça, c'est le film de Bruce Bowen, hein, mais qui date quand même des années 60, 66. Mm-hmm. Hein, mais qui est vraiment un documentaire sur le surf à l'origine, mais en Californie. Donc, il y en a un autre qui cite également The Endless Summer. Et alors, le troisième, Mick Fanning, qui dit Les Rois de la Glisse. Les pingouins
avec les pingouins.
Ouais. C'est un film, le film d'animation des pingouins surfeurs. C'est plus réaliste que les productions hollywoodiennes. Et il n'a pas tort, en fait. C'est con parce qu'il cite pas de Big Wednesday, qui est pas vraiment un film sur le surf, mais qui raconte l'histoire de trois potes qui font du surf et tout. Et bon, là, c'est vraiment bien foutu et tout, quoi. C'est dans les années 60, ça passe dans les années 60 et tout. Il y a William Catt, il y a Gary Buzet, le troisième, je me rappelle pas comment il s'appelle, mais enfin bon, c'est vraiment un excellent film. De toute façon, et puis c'est John Milius, hein, de toute façon, qui était surfeur, il faut se souvenir, hein, quand même, dans les années 60, quoi, dans la bonne époque. Et il leur demande, et Brice de Nice dans tout ça, c'est une bonne caricature de gens qui viennent sur les plages mais qui ne surfent pas. Dans le sud-ouest, il y a beaucoup de Brice. Voilà en ce qui concerne donc Point Break, je rappelle, donc c'est lundi soir sur Paris Première à 20h35. Lundi il y a également sur TCM à 22h50 La Colère de Dieu de Ralph Nelson en 72 avec Robert Mitchum, Frank Langella et Rita Hayworth. Là elle était quand même assez vieille, on va dire. C'est un western mexicain, ça se passe dans les années 20. En 1920 au Mexique, c'est-à-dire après la révolution. Hein, et bon, c'est rigolo, ça se laisse regarder en rigolant un petit peu. Mardi sur Canal Plus Cinéma, Bronson de Nicolas Winding Refn avec Tom Hardy, Amanda Burton.
Tom Hardy que nous retrouvons dans Inception,
qui a fait
tourner toutes les nanas, enfin qui a fait tourner la tête de toutes les nanas que. Tu dis à une fille, tiens, dans Inception, ils ont rien à foutre de Cillian Murphy, c'est Tom Hardy.
Bah oui, moi aussi, hein, moi, il m'a plus impressionné que Cillian Murphy, quoi.
D'accord.
J'ai trouvé fade, moi, Cillian Murphy, quoi, je trouve, quoi. Bon, il paraît que c'est lui le plus beau, mais bah,
il est juste tombé,
quoi. Ouais, bon, ok. Je ne discute pas de tes goûts.
J'adore la manière dont tu dis ça alors qu'on parle d'un sujet exclusivement féminin.
Ouais, surtout quand on parle de Bronson, tu vois. Alors, je voulais en revenir à Amanda Burton, qui est donc dans Bronson. Et Amanda Burton, c'est quand même l'héroïne principale de la série Autopsy au début, hein. Silent Witness, cette excellente série anglaise. C'est toujours mardi, donc, pour en venir au film. Sur NT1, Hors d'atteinte, un Soderbergh qui est pas dégueulasse, on va dire, hein. C'est pas un chef-d'œuvre de Soderbergh, mais c'est pas dégueulasse quand même.
C'est une bonne adaptation d'Elmore Leonard.
Avec Elmore Leonard, tout à fait.
Avec une Jennifer Lopez qui ressemblait encore à une Mexicaine à l'époque.
Voilà, ouais.
Et d'ailleurs, la BO du film.
J'avais vraiment son. Ouais, voilà. Ok, on est d'accord. Oh. Avec Clooney également, Vingrams, Don Cheadle, Dennis Farina, bref, bon casting. Sur cinéma classique, alors là, c'est la soirée à ne pas manquer du tout, avec deux westerns excellents, dont le premier qui est un chef-d'œuvre, j'ose le dire, à 20h40, La Horde Sauvage de Wild Bunch, de Samuel Peckinpah avec William Holden, magnifique, Ernest Borgnine, magnifique, Robert Ryan, excellent. Et bien sûr, dans un bon western, il faut toujours Ben Johnson. Sur cinéma classique, toujours après La Horde Sauvage à 23h, de Tonnerre Apache de Joseph Newman avec Richard Boone, George Hamilton et Luana Patterne. Laissez-vous aller quand même à regarder ce western, même s'il n'y a pas de grands acteurs vachement connus et tout, quoi. Je peux vous dire que c'est quand même un bon western. Mercredi sur France 2, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Ce sont des inédits, donc avec cette fois l'Agatha Christie qui s'appelle Je ne suis pas coupable, avec toujours Antoine Duléry et Marius Colucci. Hein, c'est sur France 2 mercredi à 20h35.
Ce mercredi qui vient.
Ouais. Sur Arte à 22h40, à ne pas louper, un excellent petit polar argentin qui est sorti il y a 10 ans, en 2000, de Fabian Bielinski qui s'appelle Les Neuf Reines. Gaston Paul et de Ricardo Darín, avec Ricardo Darín et Gaston Paul ainsi que Laetitia Baidi. C'est l'histoire de deux arnaqueurs qui essaient de revendre des faux timbres qui sont supposés être vachement rares et tout, mais bon, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et c'est bien entendu le mercredi, la soirée sur NRJ 12 qui a fait cette semaine les choses en grand, vous proposant une soirée spéciale Casper Van Dien avec l'inénarrable Shark Attack de Bob Misiorowski en 99, avec outre Casper Van Dien, Ernie Hudson, Bentley Mitchum, bref, du lourd, du tatoué, et avec le film connais, que tu as regardé, Thomas, il n'y a pas si longtemps que ça, à 22h15, Ninja en guerre de Bradford May.
Non, mais j'ai pas regardé en entier.
Avec le faux Anthony Wong.
Faux Anthony Wong.
Avec Christy Wu et Ron Yuan, mais qui vaut quand même son pesant de cacahuètes.
C'était pour mater Anthony Wong.
Oui, mais c'était pas le vrai Anthony Wong. C'était un homonyme. Voilà. Donc on était là. Mais c'est quand qu'il arrive.
Enfin, sur la chaîne Polar, mercredi prochain, un très bon polar. Hein. D'ailleurs, le bouquin est d'ailleurs excellent. Hein. C'est un bouquin de Laurence Bloch au départ. 8 millions de façons de mourir à l'HB en 86 avec Jeff Bridges, Rosanna Arquette et Andy Garcia. Jeudi sur France 3, Les Liens du sang de Jacques Maillot. Film français, polar français, 2008, avec François Cluzet et Guillaume Canet. Mais c'est un film qui nous dit, tiens, le renouveau du polar, les polars français qu'on avait dans les années 60, dans les années 70 et tout, les polars sur lesquels badaient des gens comme, comment il s'appelle là, le chinois
John,
le John Woo là, tu vois, qui badait sur des polars français
avec ses pigeons, hein.
Voilà, avec les pigeons et tout ça, quoi. Et ben, c'est le genre de film que vous pouvez voir, donc que vous pourrez voir sur France 3. C'est Les Liens du sang de Jacques Maillot. Arte vous propose encore un grand classique du polar avec Anthony Wong.
Le vrai.
Inferno.
Oui, le vrai.
Ouais.
Avec
Andy Lau. Et réalisé par Andy Lau et Alan Back.
Non, Andrew Lau. Andrew Lau avec Andy Lau. C'est pas le même, hein.
Ah bon?
Oui. Andrew Lau et Alan Back, c'est les réalisateurs.
Oui, mais Andy,
et...
c'est quand même le diminutif d'Andrew.
Oui, mais c'est pas le même.
Oui, mais c'est pas le même.
Mais Andy s'appelle Andrew.
Ah, oui, tout à fait.
Prochain.
Non, mais c'est ça, quoi.
Oh là okay. Là.
Mais merci d'ailleurs, pour la précision, quand même.
Autre
Thomas.
Acteur qu'il a pas cité.
Avec Tony Leung Chui.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Bon, moi, je joue plus.
Dans le remake, j'ai pas marqué, s'appelle.
Hein?
Dans le remake du film, s'appelle.
Les Infiltrés.
Voilà.
The Departed.
The Departed, ouais. sur TPS Star.
Bonjour, je dois avoir un hamburger, s'il
très
vous
bon, très bon
s'il
petit
vous plaît,
polar.
Il est
ouais, sur TPS Star, un très bon petit polar de l'été que je vous avais chroniqué lors de sa sortie, c'est-à-dire il y a 2 ans, puisque c'était en 2008.
Mise à prix.
C'était le premier film de Mise à prix, c'était l'année précédente, quoi, je crois. Ouais. C'était 2007. C'était de David Ayer, qui était scénariste. Qui avait scénarisé, je sais pas, un excellent film avec Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie et Chris Evans, d'après un scénario de James Ellroy. Alors là aussi, c'était pas mal et tout. Et c'est vraiment un petit polar qui est vraiment sympathique à regarder et tout, qui moi m'a réconcilié avec James Ellroy quoi. Hein, j'étais un peu fâché, toujours fâché d'ailleurs, mais bon.
J'étais fâché. Ah, tu as écrit un scénario un peu bidon. T'as pas été en forme.
Non non, c'est des bouquins plutôt quoi. Et là, ça vaut vraiment le coup avec un Keanu Reeves qui est tout à fait crédible en plus là dans un rôle un petit peu hard boiled et tout avec des flics pourris et tout. Enfin bon, ah, c'est bon. Vraiment bien. Quoi. C'est vraiment très très crédible. Bien. TPS Star donc à 22h15 jeudi prochain au bout de la nuit sur RTL9. Du Wesley Snipes quand il était encore vraiment Wesley Snipes.
Et qui était en
Extreme fort. Limit, James Bay Harris avec Dennis Hopper, Viggo Mortensen, oh, jeune.
Oui, avant.
Et Dan Hedaya. Ouais, ça vaut le coup, c'était en 93. TF6 vous propose jeudi prochain. Là, je sors un petit peu du cadre polar et tout. Quoique. Une soirée spéciale, T-Yugi. Avec tout d'abord Hot Fuzz et ensuite Shaun of the Dead, donc avec les deux de Edgar Wright et avec Simon Pegg et Nick Frost, ainsi que Timothy Dalton et Kate Blanchett dans Hot Fuzz et les autres dans Shaun of the Dead. Sur Polar jeudi prochain, Le Cercle Noir de Michael Winner en 73, ou Comment faire du justicier avant le justicier, c'est Charles Bronson bien sûr et Martin Balsam. Sur Action, une bonne soirée de polar hongkongais avec un petit docu qui vaut le coup d'être regardé au départ parce que tout d'abord on a Running Out of Time de Johnny To qui est pas dégueulasse avec Andy Lo
et Wesley Lau Chin Wan aussi.
Ouais. À 22h10, System B, là c'est un petit documentaire d'une demi-heure sur la Milky Way Images, la factory de Johnny To.
Je crois qu'il passe tout le temps celui-là.
Voilà. Et c'est tout pour le jeudi. Vendredi, on termine avec Sur Polar, Ne réveillez pas un flic qui dort de José Pinheiro avec Alain Delon. Alors, José Pinheiro,
classique.
Est-ce qu'on appelle un Yes Man? C'était le Yes Man de Delon dans les années 80. C'est lui qui faisait qui filmait tous ses polars parce qu'il n'osait pas dire non. Facile, à Delon. Hein. Et ça a fait un film vraiment pourri alors que le roman il est vachement bien, c'est un roman de Jean-Patrick Manchette et que vraiment Delon il s'est tout accaparé et tout quoi. Enfin bon, c'est moi, allez laissez tomber et tout quoi. Michel Serrault dedans, d'accord. Xavier Deluc dedans, bon d'accord. Serge Reggiani dedans, bon d'accord. Mais il y a Delon, tu vois quoi. Voilà, ok, non, je le cite juste comme ça quoi pour pouvoir bien le casser quoi. Action, vendredi prochain également, qui vous propose un bon western. C'est pas vraiment un western et tout, c'est la bataille de San Sebastian de Henri Verneuil en 67 avec Anthony Quinn, Charles Bronson et Sam Jaffe. Une histoire d'un curé qui vient dans un village mexicain et tout et qui vient le défendre parce que y a les Indiens et il y a les c'est pas les Indiens mais enfin bon c'est les méchants qui veulent terroriser les villageois et tout quoi, et donc ils organisent la défense du village de San Sebastian et tout quoi. Et Sam Jaffe, eh bien lui c'est un acteur qui est pas trop connu, c'est normal, il est mort en 84, né en 1897, et pourtant ben, il a commencé sa carrière en 34 avec Résurrection de Ruben Mamoulian, puis L'Impératrice Rouge, Scarlet Empress en 37 de Sternberg, il a tourné pour Frank Capra en 37, Lost Horizon, puis 13 rue Madeleine de Henri Rataway avec James Cagney, et on le connaît surtout pour un des chefs-d'œuvre du film noir américain, Asphalt Jungle, Quand la ville d'or, de John Huston en 1950, où il joue le rôle du perceur de coffres et tout, mais qui va se faire bouler à la fin parce que bon, il est amateur de jeunes filles, de filles vraiment très très jeunes, on va dire, trop jeunes même pour la morale. Il joue également dans Le jour où la terre s'arrêta de Robert Wise, il joue également dans Les Espions de Clouseau, il joue également dans Ben-Hur de Wyler, il joue également dans La lettre du Kremlin en 71 de John Huston, et il termine sa carrière en 1980 par un film de Murakami, Battle Beyond the Stars. Voilà qui était Sam Jaffe, que vous retrouvez donc dans la bataille de San Sebastian sur Action vendredi prochain à partir de 21h. Et le mot de la fin, je te le laisse.
Bah, je sais pas si JB voulait le faire pour une fois.
Alors, Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Oui, tout à fait. Je te reprends la feuille. Alors, aujourd'hui, c'était un spécial Actor Studio Part du Sport avec aujourd'hui les accents. Un manga sur les mangas, on a eu des motos et des boulons qui giclent, un dessinateur chez les cowboys, un double programme, Dieu dans la merde, de la rigolade tarantinesque, des bras coupés, un gros le drapeau de la Jamaïque, de la mousse, Wong le curé, le retour de Shah Rukh Khan, du surf et des pingouins, Point Break, Jennifer Lopez avec son... Voilà. Le retour du requin et des tatoués, et il y a Delon.
non une religion athéiste. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, excusez-moi.
Il vient de la comprendre, excusez-le.
Non, c'est pas ça, je rigole sur autre chose. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. Pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 49.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net.
Oui, oui.
Exactement, oui, oui, bientôt Sam Sam. Dans le prochain épisode, quelque chose de complètement différent. Something completely different.
Exactement. Voilà, so... ciao, bye bye, so rendez-vous samedi
ce
à
sera,
midi.
Ce sera la 250e.
Yes. Woo.
Ciao. Et le début de la saison 7. Pour signaler donc maintenant du sport, et à partir de 14h, nous serons en direct à partir du festival Théâtre de Rue à... Punaise, mais c'est pas vrai. Allez, ciao, bye bye.
I got to give it up. I got to give it up. That stuff.